justement, sur ce bénéfice éventuel que j'aimerais que nous travaillions maintenant, et ce sera le quatrième et dernier gros chapitre. Le cinquième chapitre de notre cours sera plus rapide, hein, ce seront plutôt des considérations sur des débats contemporains, mais qui, vous verrez, seront très facilement encastrables dans des choses qu'on aura déjà vues antérieurement. Donc je pense que je ferai le dernier chapitre en 4 heures, je le réduirai à l'excès, mais suffisamment pour que vous en tiriez le meilleur. Le quatrième chapitre sera consacré justement à l'idée que la morale ne prend sens que par l'histoire, en vue du dépassement de soi. Vous voyez la synthèse que je tente, c'est-à-dire de ne pas en rester à une immanence toute biologique et j'estime insatisfaisante, mais en même temps prendre en compte ce que le darwinisme moral et la pensée de Hobbes nous ont mis en avant, c'est-à-dire l'idée d'une historicité de la personne. Telles sont mes ambitions pour ce chapitre 3. Alors, j'avais imaginé vous parler d'abord d'Héraclite, ce qui aurait été une très bonne introduction à la pensée de Hegel. Je vais devoir néanmoins réviser mes ambitions un tout petit peu à la baisse. On va passer directement à la deuxième sous-partie de ce chapitre, qui sera la partie la plus importante, le droit comme extériorisation de la liberté et la réflexion qui en découle sur la morale. Alors, ce qui fait que nous avons terminé les textes jusqu'à 228 et nous entrons dans une des dernières liasses de textes. Donc, les textes d'Héraclite, vous pourrez les regarder, mais vous risquez d'avoir un petit peu de mal à les interpréter dans un sens immédiatement moral. Bon, en tout cas, n'en faites pas une priorité. On va surtout s'intéresser maintenant au corpus hégélien. Alors, j'ai intitulé plus précisément cette sous-partie « Le droit et l'extériorisation de la liberté ». Et il comprend en cela la morale et la politique sans les dissocier. Il est alors le fruit d'une dialectique historique de la raison se développant comme système. Ce sera finalement la thèse principale de ce chapitre. Donc c'est assez dense, hein, je vous le cache pas. D'abord, il faut comprendre que le droit, au sens même positif, c'est de la liberté matérialisée. Ça va pas être facile à comprendre. Et qu'à l'intérieur du droit, au sens hégélien, vous avez la morale. Mais que, parce que dans le droit, c'est-à-dire la version positive de l'expression de la liberté, parce que vous avez la morale dedans, elle est toujours mélangée à la politique. Rappelez-vous, c'était une de nos questions du début d'année. Quelle est la frontière de l'éthique et de la politique? Eh bien, chez Hegel, il n'y en a pas vraiment. Enfin, c'est pas clair. C'est d'ailleurs une fausse question pour Hegel. Parce que la morale, au sens où nous l'entendons, est toujours déjà en route vers le politique, et le politique est forcément traversé par des valeurs morales, de sorte que pour lui, il n'y a qu'un seul mot pour rassembler ces deux termes, ça s'appelle le droit. Voilà. Mais ce qui compte, ce n'est pas la différence de la morale ou de la politique à l'intérieur du droit, qui n'existe pas, ou pas assez, mais c'est bien plutôt le fait que ce droit est l'expression historique de la liberté. Autrement dit, avec Hegel, retenez bien cela, il ne faut pas penser la liberté comme une qualité, voire Aristote, voire Kant, mais il faut penser plutôt la liberté comme ce qui, à partir d'un point de départ embryonnaire, se développe au fur et à mesure des expériences de l'humanité. De sorte que la liberté et moins une qualité acquise que quelque chose qui se développe ou encore le fruit d'un processus. Avec Hegel, il faudra donc parler moins de liberté, même s'il le fait, que de libération. Alors cette histoire, vous le savez déjà pour, je pense, avoir été initié à la philosophie hégélienne de l'histoire, cette histoire, elle a pour moteur la contradiction. Et ceci va nous permettre de spécifier les questions de cette sous-partie, au sens où nous allons bien entendu reprendre une des questions que nous avions posées dès le début de l'année, c'était la question 2.5. La question « La morale a-t-elle une histoire? Signale-t-elle nécessairement une option relativiste ?» Non. Pour Hegel, la preuve, c'est que c'est... Enfin, la preuve, pardon. L'indice de cela, c'est que justement je vais prétendre répondre notamment au relativisme qu'on vient d'étudier dans le chapitre 3 par les thèses de Hegel. Donc le fait de prendre en compte l'histoire n'est évidemment pas l'occasion d'un relativisme. Mais ce sera l'occasion d'observer les contradictions de l'esprit des peuples qui luttent entre eux, de sorte que nous poserons la question petit alpha, quelle forme de rationalité est capable de prendre en charge la contradiction des affects et des nécessités morales et politiques? Ça veut dire que s'il y a une rationalité dans l'histoire, et si celle-ci ne mène pas au relativisme, nous changeons de méthode, inévitablement. Car la méthode précédente de la psychologie évolutionniste ou du darwinisme moral conduisait au relativisme, tout en signalant des contradictions. Ici, on prend en compte l'histoire, on prend en compte les contradictions et on n'arrive pas au relativisme. Quelle est donc cette méthode proprement hegélienne pour analyser la morale ou le droit? Eh bien, il s'agit d'une forme de rationalité très particulière qui s'appelle la dialectique, mais qui ne s'entend pas cette fois ni au sens platonicien, ni au sens aristotélicien. Et puis, plus précisément, dans la suite de la question de l'introduction 2.5, question petit bêta, à quel point la forme de la morale est-elle historiquement nécessaire? C'est-à-dire que dans les moments de transition ou dans les moments où la morale évolue, est-ce qu'on était obligé d'arriver à telle forme de droit, ou bien est-ce que le droit est fait d'options de contingence? Autre manière de reposer la question du relativisme moral. Alors, dans le plan, je vous ai indiqué, sauf erreur de ma part, les thèses principales. Bah non, je ne l'ai pas fait, mais si, il me semble. Si, si, voilà, je vous ai mis les trois thèses principales, donc vous les mettez directement dans votre cours, je les explique un tout petit peu, et puis elles vont se développer au fur et à mesure. Première thèse, la genèse du droit se comprend d'un point de vue d'abord logique, puisque c'est l'histoire d'une suite nécessaire de contradictions, la logique étant dialectique. Donc ça veut dire qu'il va falloir revenir à de la métaphysique pour penser que le droit, c'est-à-dire le droit comme extériorisation de la liberté, se développe. La métaphysique, pour le dire simplement, va fonder la pratique et la liberté. En principe, vous n'êtes pas surpris par cette idée. Platon, Aristote, enfin, c'est des choses qu'on a déjà croisées, hein. Deuxième thèse, l'État est la forme la plus haute de rationalité du vivre ensemble et accomplit le projet moral. C'est pour ça que je vous dis, on ne va pas pouvoir faire autrement que de faire de la philosophie politique pour faire de la philosophie morale. C'est totalement mélangé chez Hegel. L'idéal du citoyen hegélien, c'est celui qui est accompli dans son individualité par l'État. Éloge du guerrier qui va mourir au combat pour l'État. Et d'un certain point de vue, il a renoncé à son bonheur, donc on dit c'est plutôt la politique qui l'emporte sur l'éthique. Oui, mais d'un autre point de vue, c'est la politique qui accomplit l'éthique, comme chez Aristote. Donc on ne séparera pas les deux, mais chaque fois que je parlerai de politique, entendez accomplissement de l'éthique et du droit et de la liberté, de sorte qu'il n'y a pas de vraie distinction. Troisième thèse, l'État lui-même ne se comprend que comme le terme d'une recherche de reconnaissance qui définit le social, c'est-à-dire que nous allons revenir à une réflexion sur la nature d'autrui et sur la nature du premier rapport à autrui. Et on verra alors, en porte-à-faux avec Lévinas, mais peut-être plus proche de Aristote de ce point de vue-là, que toute la morale peut être conçue comme un combat pour la reconnaissance, un combat la plupart du temps qui a réussi à se pacifier, mais qui implique que la vie morale, c'est une tension permanente entre la paix et la guerre, à l'image du flux héraclitéen qui fait qu'on ne peut jamais s'installer totalement dans la paix qui comporte toujours déjà la guerre, qu'on ne peut jamais s'installer totalement dans la guerre qui comporte déjà toujours la paix. Et c'est pour ça que j'avais imaginé dans un premier temps vous parler d'Héraclite, mais pour une autre vie de Cagneux. Peut-être nous retrouverons-nous dans un monde meilleur où nous avons un temps infini et nous pouvons enfin tout faire. Et peut-être certains se disent, ah bah je vais pas en plus me le taper au paradis, ça va pas la tête. Bon, voilà, alors ça c'est une autre affaire. Alors 2.1, la rencontre de l'autre homme, comme émergence de la question morale. Alors, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière des principes de la philosophie du droit, hein, qui va vraiment être l'œuvre principale pour nous pour parler de Hegel, parce que vous avez ce qu'on appelle classiquement la morale, vous avez la politique, vous avez l'État, vous avez les contradictions morales, vous avez la critique de la morale kantienne, et puis vous avez même la philosophie de l'histoire. Donc tout pour nous est dans les principes de la philosophie du droit, et si vous voulez vous avancer ou approfondir ce cours, concentrez-vous sur cette œuvre-là. En revanche, pour comprendre les principes de la philosophie du droit, il faut envisager une étape précède justement l'émergence du droit, qui est tout simplement la rencontre de l'autre. On a déjà rencontré cette question avec Aristote dans l'Amitié, avec Husserl dans la constitution de l'autre en tant qu'autre, avec Lévinas dans l'impossibilité de réduire le face-à-face à quelque chose de symétrique. Eh bien, nous allons voir une autre version de ce rapport à autrui, de cette définition de l'autre et de la nature fondamentale de ce rapport, avec ce que j'appelle les étapes amorales du développement de l'homme. Alors j'ai mis cette expression entre guillemets, pourquoi? Parce que bah, c'est jamais totalement amoral, puisque le simple fait de s'apercevoir, ça engage déjà un certain type de valeur, et on va le voir chez Hegel plutôt d'un combat. Mais en même temps, c'est tellement peu explicité qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on était au point sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on ne doit pas faire, sur ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que c'est que ces étapes du développement amoral? Et bien c'est tout ce qui est décrit dans la première partie de la phénoménologie de l'esprit. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit subjectif et le tout début de la deuxième partie, ce qu'on appelle l'esprit objectif. Alors résumé à grands traits dans ce 2.1.1 de l'esprit subjectif. C'est impossible. Je vais quand même essayer. Alors c'est l'histoire, j'allais dire d'un mec, non d'un homme, qui découvre le monde à partir d'une connaissance absolument nulle de l'univers. Ça s'appelle la certitude sensible. Au départ, l'homme tout seul, hein, là on n'a encore rencontré personne, il voit la nature. Et ce qu'il voit, puisqu'il est très naïf et qu'il découvre le monde, il y croit absolument. La certitude sensible, désolé pour l'esprit à qui je répète cela, la certitude sensible, c'est ce moment de l'ici et du maintenant. Hic et nunc. C'est-à-dire, un peu comme le dit l'homme de la rue, moi, je crois en ce que je vois et en ce que je touche, moi, je suis dans le concret. Ce qu'ignore l'homme de la rue, ou l'homme qui se croit un grand critique de la philosophie à ce moment-là, ce qu'il ignore, c'est que quand il dit « ici et maintenant, ça, c'est du concret, ce que je vois, ce que je touche, ça, c'est vrai », eh bien, ce qu'il ignore, c'est qu'au moment même où il l'a dit, le temps a déjà passé, et que la surface qu'il a touchée, par exemple, de son poing, eh bien, elle était bien plus large que ce qu'il croyait. Le seul « ici et maintenant » qui vaille, c'est celui du point, du punctum, à la fois temporel et spatial. Et dès lors que vous êtes en train de dire « moi, je suis dans le concret, c'est déjà trop tard », vous avez montré que votre phrase s'exprime dans le temps, c'est-à-dire au-delà de l'instant que vous pensiez repérer. Autrement dit, la certitude sensible, qui est le premier chapitre des trois chapitres de l'esprit subjectif, c'est une contradiction en marche. L'homme commence à comprendre que le monde ne va pas de soi, et qu'il va falloir qu'il appréhende ce monde pour essayer de dépasser cette contradiction de l'instant et de la durée. Un peu comme Héraclite, qui dit « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Et c'est le passage, deuxième chapitre, c'est horrible de faire ce que je fais, mais j'ai pas le choix, deuxième chapitre, c'est le passage à la perception. Je comprends, durant la perception, qu'une chose, une chose dont je voudrais dire que je la connais, que je l'appréhende, eh bien, elle n'existe que comme un faisceau de propriétés qui demeurent. Jusque-là, ça je connais, c'est Platon, c'est Leidos, on est en terrain connu. Oui, mais question, qu'est-ce qui demeure quand tout est en mouvement? Eh bien, c'est notamment là que l'homme fait l'expérience comme chez Kant, comme chez Descartes, de l'idéalisme. Il s'aperçoit qu'autour de lui, tout bouge, mais que quand lui parle d'une chose en particulier, il le fait d'abord parce que lui, il ne bouge pas, ou pas trop. Et donc l'homme prend conscience, entre autres, que l'unité du monde, c'est l'unité que lui donne au monde. C'est à la fois inquiétant et rassurant. Le monde a une unité, c'est rassurant, mais elle vient de moi. De sorte que l'idéalisme, on pourrait dire, auquel je suis alors exposé, eh bien c'est un idéalisme qui est très ambivalent, puisque j'ai un doute sur à la fois l'existence des choses et sur leur unité. Mais dans ce doute, il y a une bonne nouvelle. C'est que je m'aperçois que si j'ai un doute sur l'unité des choses, que moi, je définis comme des faisceaux de propriétés qui demeurent, eh bien c'est peut-être que les choses sont moins une que je ne le pense, parce qu'elles seraient toutes en relation les unes avec les autres. Et l'on arrive alors au troisième et dernier temps de l'esprit subjectif, qui s'intitule « Force et entendement », dont l'une des conclusions est la suivante, c'est qu'une chose n'est pas une chose juste d'être cette chose, mais elle est cette chose d'être en relation avec toutes les autres choses. Alors pourquoi vous raconter toute cette histoire qui est, je le répète, apparemment amorale ? Eh bien pour la raison suivante, c'est que d'abord, dans cette histoire, j'ai quand même appris que je me développe par un jeu de thèse, d'antithèse et de contradictions surmontées. Et cela, on ne va plus le quitter durant toute la vie morale. C'est comme l'enfance de ma moralité. J'ai déjà appris la dialectique. Et puis il y a une deuxième raison. Évidemment, je vous demande de me croire de façon un peu doxographique, parce qu'on n'a pas pris le détail des textes. Il y a une deuxième raison qui est utile ici. Un deuxième aspect, pardon, qui est utile ici. C'est que au moment même où je m'aperçois qu'une chose n'existe qu'en fonction de toutes les autres, que je dois finalement penser plus le monde en général que la chose en particulier, eh bien je m'inclus dans tout cela. Ce qui veut dire que je n'existe pas comme une chose à part du monde, mais que j'existe dans la totalité des choses, et éventuellement dans la totalité des relations à des êtres qui me ressembleraient. Autrement dit, je prépare le début de l'esprit objectif, ça s'appelle, dans lequel l'homme n'existe qu'en relation avec les autres hommes. Et l'esprit objectif, c'est quoi ? Pour le dire rapidement, c'est tout le développement de l'histoire humaine en société. Donc l'esprit subjectif, je suis plutôt tout seul. Subjectif ne veut pas dire chacun sait pour lui ou chacun voit les choses comme il veut, mais veut dire je me développe en tant que sujet pour moi-même. L'esprit objectif veut dire que je me confronte à d'autres sujets. De sorte qu'ici s'arrêtent les étapes entre guillemets amorales de l'histoire de l'humanité. Et là, on entre vraiment dans le moment explicitement moral ou politique ou juridique de l'histoire de l'humanité. Nous passons donc au 2-1-2, le 2-1 n'avait qu'une fonction préliminaire. Le début de l'esprit objectif, le schéma oppositif et la phénoménologie du désir. Alors il y a un tout petit temps intermédiaire avant la rencontre de l'autre, et qui évidemment nous intéresse pour la philosophie morale. C'est une analyse du désir qu'on trouve dans le début de l'esprit objectif. Alors, vous vous rappelez que nos analyses du désir, chez Aristote, chez les stoïciens, chez Lévinas, etc., conduisaient finalement, je synthétise, mais pour aller vite, à une sorte de double lecture du désir. Première lecture, il est rationnel, il est irrationnel, c'est le paradoxe classique. Deuxième lecture, il est moral, il est immoral. Parfois, c'est d'ailleurs mélangé. Il est immoral notamment en cela qu'il n'est jamais satisfait, et c'est d'ailleurs ce qui fait son irrationalité, voire Épicure sur les désirs non naturels, non nécessaires par exemple. La philosophie ayant pour but notamment de nous permettre de mieux contrôler nos désirs ou de mieux les choisir. Encore une fois, Épicure, il faut favoriser les désirs naturels nécessaires car ceux-là seuls, quand on les satisfait, nous rendent heureux. Les deux autres, naturels non nécessaires ou non naturels non nécessaires, étant des désirs qui ne peuvent que nous mener à l'échec, à la frustration, au malheur. Alors vous allez voir que l'analyse de Hegel est tout à fait différente. C'est l'objet du texte 231, puisque dans ce texte, on comprend qu'être un homme, c'est d'abord désirer. Alors, c'est pas une thèse proprement hegélienne, on la trouve chez Spinoza, on la trouve en partie chez Aristote d'ailleurs. Voir Spinoza, début de l'appendice à l'éthique 3, le désir est l'essence même de l'homme, hein, c'est pas rien hein, de dire ça, c'est. Il y a tout un paragraphe d'explication, c'est un très beau texte. On ne peut pas tout faire cette année. On va prendre ici le texte 231, et vous allez comprendre que Hegel est à la fois original, d'abord parce qu'il analyse le désir d'une façon amorale, c'est pas c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux. Donc il y a une autre grille de lecture, et deuxièmement, il l'est dans sa définition même du désir, puisque le désir, fondamentalement, est destructeur. Voilà la thèse fondamentale de Hegel sur le désir. On va comprendre ce que ça veut dire. N'oubliez pas évidemment que nous ne quittons jamais la dialectique de la contradiction surmontée. Donc c'est de ce point de vue-là que ce texte se comprend. Priscille, s'il vous plaît, texte 231, donc dans la traduction de Lefebvre, à partir de Le moi simple. Lisez lentement, c'est assez dense.
Le moi simple est ce genre où l'univers est simple, dans lequel les différences sont néant, mais il l'est seulement quand il est l'essence négative des moments indépendants qui se sont formés. Ainsi, la conscience de soi est certaine de soi-même, seulement par la suppression de cet autre qui se présente à elle comme vie indépendante. Elle est désir. Certaine de la nullité de cet autre, elle pense pour soi cette nullité comme vérité propre, anéantit l'objet indépendant et se donne par là la certitude de soi-même comme vraie certitude. Certitude qui est alors venue à l'être pour elle sous une forme objective. Mais dans cette satisfaction, la conscience de soi fait l'expérience de l'indépendance de son objet. Le désir et la certitude de soi, atteints dans la satisfaction du désir, sont conditionnés par l'objet. En effet, la satisfaction a lieu par la suppression de cet autre. Pour que cette suppression soit, cet autre aussi doit être. La conscience de soi ne peut donc pas supprimer l'objet par son rapport négatif à lui. Par là, elle le reproduit plutôt comme elle reproduit le désir. C'est en fait un autre que la conscience de soi qui est l'essence du désir. Et, par cette expérience, cette vérité devient présente à la conscience de soi. Mais en même temps, la conscience de soi est aussi bien absolument pour soi, et elle l'est seulement par la suppression de l'objet. De lui doit venir sa satisfaction, parce qu'elle est la vérité. En vertu de l'indépendance de l'objet, la conscience de soi peut donc parvenir à sa satisfaction seulement quand cet objet lui-même accomplit en lui la négation. Et il doit accomplir en soi cette négation de soi-même, car il est en soi le négatif et doit être pour l'autre ce qu'il est. Mais quand l'objet est en soi-même la négation, et quand en cela il est en même temps indépendant, alors il est conscience. Dans la vie qui est l'objet du désir, la négation est, ou bien dans un autre, c'est-à-dire dans le désir. Ou bien est comme déterminabilité à l'égard d'une autre figure indifférente, ou bien est comme nature inorganique universelle de cette vie. Mais une telle nature universelle indépendante, dans laquelle la négation est comme négation absolue, est le genre comme tel, ou comme conscience de soi. La conscience de soi atteint sa satisfaction seulement dans une autre conscience de soi.
Bon, alors c'est un très beau texte, je le commenterai à la rentrée, maintenant. On fera le corrigé du devoir assez rapidement, enfin suffisamment, rassurez-vous. Et puis on aura 3 heures sur Hegel avant le concours blanc. Avez-vous des questions? C'est bon, merci.